Place Info.
Bonjour Gabriel Attal.
Bonjour.
Le trafic SNCF est quasiment normal ce matin, en tout cas sur les TGV et les Ouigo, 3 TER sur 4 et 2 intercités sur 3. C'est un mouvement surprise qui est parti d'un accident de TER dans les Ardennes avec un conducteur qui était seul à bord, qui s'est d'ailleurs blessé, qui a dû gérer toute cette situation. Dangereux, disent les syndicats qui justifient leur droit de retrait. Et au contraire, Édouard Philippe, le Premier ministre, parle d'un détournement de ce droit de retrait. Est-ce que vous êtes d'accord avec le chef de votre gouvernement ?
Oui, le Premier ministre a très bien résumé les choses. Il y a eu un accident. Et il faut saluer d'ailleurs le courage et la réaction du chauffeur de ce TER qui a su comment réagir, qui a évité que l'accident soit beaucoup plus grave. Mais on voit bien que un syndicat, notamment, peut-être des syndicats, ont pris appui sur cet accident pour 48 heures après engager ce qu'ils ont appelé un droit de retrait avec des conducteurs qui ne circulent pas du tout sur des trains qui sont les mêmes que celui qui a connu cet accident, c'est-à-dire des TER, donc des Ouigo, des TGV, et qui, derrière un prétendu droit de retrait, ont en fait engagé une grève sans préavis, qui est tombée sur des familles qui, pour le premier jour des vacances, partaient en vacances. Les trains qui ont été les plus impactés, c'est en plus les Ouigo. Donc on sait que c'est les trains pour lesquels des voyageurs ont pris leur billet à l'avance. C'est des trains dont les billets coûtent moins cher que les autres.
Donc ils s'adressent à un public plus populaire.
Bah oui, c'est toujours les mêmes qui trinquent. Vous savez, quand il y a des grèves sur les RER ou en région parisienne, bah c'est toujours ceux qui se lèvent tôt le matin pour aller au travail qui trinquent. Là, c'est encore des personnes qui n'ont pas énormément de moyens, qui avaient réservé à l'avance leurs billets et qui se sont retrouvés dans la panade. Et
ça, c'est tout le monde sera remboursé, a déjà dit sur France Info Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, y compris ceux qui avaient donc des billets Ouigo qui normalement ne sont pas remboursables. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les syndicats, selon vous, se saisissent d'un événement, cet accident mercredi dernier dans les Ardennes, pour refaire le match finalement d'il y a quelques mois au moment où vous avez passé la loi sur la privatisation de la SNCF.
Oui, le match d'il y a quelques mois, peut-être le match des prochains mois, je ne sais pas. En tout cas, il faut bien distinguer deux choses. Évidemment que quand il y a un accident comme celui qui a eu lieu, il faut regarder ce qui s'est passé et adapter évidemment si besoin des conditions.
Et justement, les syndicats disent c'est dangereux
des conditions de sécurité
à bord.
Mais pour ça, il y a le dialogue social, il y a la discussion entre la direction et les syndicats. Il peut y avoir une grève, mais dans ces cas-là, il y a un préavis de grève qui permet aux voyageurs de prendre leurs dispositions pour pas être impactés trop durement dans leur quotidien. Et ça, ça n'a pas été respecté. Et ça, je le dénonce.
Renaud Dely.
Justement, Gabriel Attal, vous dénoncez le comportement des syndicats. Je propose d'écouter l'une de ces syndicalistes quand on lui dit « Mais est-ce que c'était une grève déguisée qui s'est produite ce week-end ?» Voici ce que répond Fanny Arave, qui est la porte-parole de l'UNSA Ferroviaire.
Absolument pas. Je maintiens la définition de droit de retrait, qui est un droit de retrait individuel pour une cause sérieuse, qui est l'inquiétude des agents par rapport à cet accident où un agent, comme vous l'avez dit, donc le conducteur s'est retrouvé seul et a dû parcourir 1,5 km blessé pour faire toute la signalisation nécessaire.
Les syndicats, dont la porte-parole de l'UNSA qui était invitée de France Info ce matin, maintient que c'était un droit de retrait. Vous dites que vous, c'était une grève déguisée. Si c'était une grève déguisée, est-ce qu'il faut sanctionner ces grévistes?
Oui, je pense qu'il faut qu'il y ait des retenues sur salaire dans le cas où c'est évidemment considéré comme une grève déguisée. Encore une fois, moi je ne
Mais vous souhaitez des sanctions? Le gouvernement souhaite des sanctions à l'endroit des grévistes?
Ça a été annoncé par le Premier ministre, par le secrétaire d'État.
Au-delà
Pépi,
des retenues de salaire,
aussi.
Parce que finalement, une retenue de salaire, c'est normal quand on fait grève que de ne pas être payé. Il faut aller au-delà.
Oui, mais encore faut-il que ça soit considéré comme une grève. Et là, ça sera, je crois, à regarder dans les jours qui viennent. Mais encore une fois, j'entends cette syndicaliste qui parle de décisions individuelles. On voit bien qu'il y avait un cadre collectif de péril imminent sur les personnes. C'est arrivé 48 heures après qu'il y ait eu l'accident. Et encore une fois, la plupart des conducteurs qui ont exercé ce soi-disant droit de retrait n'étaient pas concernés par cet accident, puisqu'il roule sur d'autres trains que celui qui a été concerné.
Ce conducteur, donc ce train qui a eu un accident en Champagne-Ardenne, était donc seul à bord. Les syndicats réclament le retour de davantage de personnel et notamment de contrôleurs à bord des trains pour que les conducteurs ne soient plus seuls. Est-ce qu'il faut remettre des contrôleurs dans les trains?
Mais ça fait partie des discussions entre syndicats et directions qui doivent se tenir. Moi, je ne suis pas un spécialiste des questions de transport. Ce que je sais, pour avoir entendu Guillaume Pépi s'exprimer sur le sujet comme le secrétaire d'État, c'est que ça fait 10 ans qu'on a ce système dans un certain nombre de régions de conducteurs seuls à bord, que c'est un système qui est utilisé dans beaucoup de pays européens, puisque maintenant, vous savez que les billets sont contrôlés à l'entrée avec des portiques. Et donc voilà, je pense
pas. Il y a pas de problème aujourd'hui.
On découvre pas tout d'un coup.
Il y a pas de problème de sécurité.
Non, mais je dis qu'on découvre pas tout d'un coup ce système. Il peut y avoir des enjeux de sécurité.
On découvre pas non plus peut-être une dégradation du service.
Mais il y a peut-être d'autres adaptations à faire sur la sécurité que celle-là. Encore une fois, ça doit être la discussion entre les syndicats et la direction. Je crois qu'il y a des réunions importantes qui doivent se tenir à la fin de la semaine. Je crois par ailleurs que il y a des réunions qui, le dialogue social ne s'est pas arrêté, qu'il y a des réunions qui se sont tenues.
Oui, dès vendredi, des réunions sont tenues entre syndicats et direction. Mais est-ce que cet événement, le fait qu'il y ait eu cette grève surprise, disons, et le fait que maintenant vous et le gouvernement vous réclamiez des sanctions, ça ne risque pas de rendre le dialogue encore plus compliqué, alors qu'il y a, vous le disiez tout à l'heure, cet appel à la grève le 5 décembre prochain à la RATP et dans tous les transports en France.
S'il y a des personnes qui considèrent que le dialogue n'est pas nécessaire, c'est peut-être ceux qui annoncent déjà une grève plusieurs mois à l'avance. Vous aurez entendu que moi, dans mon expression ce matin, et je crois que c'est pareil pour les autres membres du gouvernement qui se sont exprimés, il y a une volonté de poser tout sur la table, y compris sur les enjeux de sécurité. Mais il faut faire la part des choses. Il y a des enjeux très concrets de sécurité pour les conducteurs et pour les passagers qui doivent être tenus, et ça fait l'objet des discussions classiques dans une entreprise comme la SNCF. Et puis après, il y a l'enjeu du droit de retrait qui ne doit pas être détourné pour engager une action spectaculaire le jour des vacances, et encore une fois, que ça soit toujours les mêmes qui trinquent.
Mais ça ne va pas compliquer le dialogue, encore une fois, alors que la réforme des retraites qui inquiète énormément de Français est en train d'être négociée en ce moment.
Encore une fois, nous, on a une volonté de dialogue permanente. Et précisément, sur la question de la réforme des retraites, il y a des groupes de travail, il y a des discussions qui ont lieu depuis maintenant plusieurs semaines. Jean-Paul Delevoye avait engagé son rapport, avait déjà échangé avec les syndicats. Ces discussions, elles vont se poursuivre. Il y a tout un enjeu sur la transition.
Spécifiquement avec notamment les personnels de la SNCF en vue de l'échéance de ces grèves annoncées pour le mois de décembre. Mais dialoguer, c'est bien, mais est-ce qu'il ne faut pas annoncer, commencer à annoncer des choses ? Peut-être davantage de personnel ou un effort financier ?
Vous savez, sur la question des retraites, si on commençait à annoncer des choses, ça voudrait dire que le dialogue ne sert à rien. Il y a une concertation, il y a un échange avec les syndicats qui doit nous mener jusqu'à la fin de l'année. Parce que spécifiquement, quand on est sur des régimes spéciaux, c'est-à-dire des personnels qui ont un régime spécifique de retraite, des droits spécifiques, et que notre objectif c'est d'aller vers une convergence, on sait que ces personnels-là qui sont les plus concernés par la bascule et le nouveau système. Et donc, il faut une discussion spécifique avec eux. C'est ce qui a été engagé, c'est ce qui va se poursuivre dans les mois qui viennent.
Qui pourrait aller plutôt dans la direction d'un report de la mise en application de la réforme des retraites pour la SNCF ?
Je ne crois pas. Encore une fois, toute la question, c'est celle de la transition. Et là-dessus, le Premier ministre a été très clair. Dès la remise du rapport de Delevoye, il a dit qu'il y avait un enjeu sur un certain nombre de publics, notamment celui des cheminots, celui de la SNCF, sur la transition. C'est quoi le calendrier de transition vers le nouveau système ? Là-dessus, il n'y a pas de nouveauté, ouais. Et c'est ça qui doit être discuté.
Il pourrait y avoir une entrée en vigueur en fait différente selon les métiers. Gabriel Attal est notre invité ce matin sur France Info. On va parler du service national universel dans un instant, juste après l'info, à 8h40. Mélanie Delaunay.
La majorité des trains circulent ce matin, mais encore des voyageurs à quai, 2 intercités sur 3, 3 TER sur 4. Retour à la normale pour les TGV, Ouigo et Transilien. On ne veut pas s'enfoncer dans un bras de fer stérile, mais le sujet n'est pas enterré pour nous, prévient sur France Info la porte-parole de l'UNSA ferroviaire. L'ambassade de France au Chili appelle à la plus grande prudence et à éviter tout rassemblement sur la voie publique. L'état d'urgence étendu à plusieurs villes et la capitale Santiago sous couvre-feu. 7 personnes sont mortes depuis le début des émeutes et des pillages. La fabrication de nos téléphones, de nos télévisions, de nos téléphones portables à travers le monde consomme 5 fois plus que celle que la fabrication des voitures françaises. Étude dévoilée par France Info ce matin. Le numérique est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre mondial. La Fédération internationale de rugby s'empare d'une photo qui circule sur les réseaux sociaux, celle de l'arbitre mimant le coup de coude qui a valu une exclusion à Sébastien Vamaina lors du quart de finale contre le Pays de Galles. Le président de la Fédération française, Bernard Laporte, réclame des sanctions si les faits sont avérés.
France Info. Et tout est plus clair.
Gabriel Attal, secrétaire d'État à la jeunesse, est notre invité ce matin. Vous êtes en train de mettre en œuvre le service national universel. C'est ce qui est censé combler le vide, en quelque sorte, laissé par le service militaire. Il faut que la société fasse corps, c'est un peu l'idée. Il y a eu la première phase de cohésion cet été, en juin. 2000 jeunes reçus dans une quinzaine de centres partout en France. Et aujourd'hui, c'est la mission d'intérêt général qui commence pour la moitié d'entre eux, 1 million de jeunes. Donc, ça va consister en quoi, cette mission d'intérêt général? Ils seront sur le terrain, c'est ça, ces jeunes ?
Cette mission d'intérêt général qui débute aujourd'hui pour la majorité des jeunes du service national universel, elle vise à aller découvrir l'engagement. S'engager, c'est quoi? C'est donner ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire un peu de son temps au service de l'intérêt général, dans une association, chez les pompiers, dans la garde nationale, à l'armée. Et donc, ces jeunes vont découvrir pendant deux semaines, dans une association, ça peut être une association de solidarité, d'aide alimentaire, une association de protection de l'environnement, chez les pompiers, dans les armées, ils vont découvrir ce que c'est que s'engager. Et l'objectif, c'est qu'il y ait une forme de déclic chez ces jeunes et qu'ils aient envie ensuite de s'engager plus durablement dans du bénévolat, en faisant un service civique dans la garde nationale. Il y a quelques jeunes qui ont déjà fait leur mission en intérêt général cet été et les retours qu'on a sont extrêmement positifs.
J'ai reçu... Deux semaines, pourtant, c'est très court. Ça ressemble un peu à ce que peuvent faire les stages de troisième. C'est donc quelque chose plus d'observation que de réellement
Non, justement, le stage
s'engager.
De troisième, c'est une semaine et c'est un stage d'observation. Là, précisément, on n'est pas dans l'observation. On est dans une mission d'intérêt général. Donc, il y a des actions très concrètes qui sont réalisées. Ça peut être sur la dépollution d'un site, l'entretien d'un littoral, ça peut être le fait de servir des repas à des personnes qui sont dans le besoin, ça peut être aller s'occuper de personnes âgées dans une maison de retraite. Voilà, c'est des choses très concrètes. Et les retours qu'on a, encore une fois, de la part des jeunes, de la part des parents, sont très positifs. J'ai reçu un courrier d'une maman qui me dit « Mon enfant a été transformé. Il n'avait pas l'idée auparavant d'aller s'engager dans du bénévolat ou autre. Et pour lui, ça a été un déclic. Il a fait sa mission d'intérêt général et déjà, il a envie de poursuivre, il a envie de s'engager dans une association. Et ça, c'est très positif.
Vous avez conduit une étude, vous avez une étude sur justement ceux qui se sont déjà, ceux qui ont déjà fait ces périodes, et c'est plutôt les secteurs régaliens qui les attirent, c'est plutôt les pompiers, l'armée.
Oui, enfin, dans les jeunes qui, au départ, ont demandé à faire le service national universel, puisqu'on était sur
des volontaires,
il y avait effectivement cette dimension régalienne qui attirait beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est que après avoir fait le séjour de cohésion en juin dernier, où je le rappelle, ils étaient dans une autre région que la leur, avec des jeunes qui viennent d'autres régions que la leur, encadrés par des personnes de l'éducation populaire,
et sur ces images qu'on a vues avec le lever du drapeau, et etc.
Une majorité d'entre eux a choisi des missions dans la solidarité, parce que ce séjour de cohésion, il leur a permis aussi de découvrir d'autres secteurs d'engagement.
Alors, ce qui ressort aussi, ce sont des emplois du temps surchargés, des jeunes qui se disent fatigués et qui n'ont pas forcément compris ce qu'on attendait d'eux pendant ces deux semaines.
Bon, ce qui ressort, c'est que 94% des jeunes ont dit qu'ils étaient satisfaits de l'expérience, ce qui est positif. Alors oui, c'était des volontaires, mais
ils étaient contents de voir d'autres jeunes, mais ils n'ont pas bien compris le but.
Quand on est un jeune volontaire, souvent on a de très hautes attentes sur ce pourquoi on candidate et on est volontaire, donc il y avait un risque que des jeunes soient déçus, ça n'a pas été le cas.
Mais la synthèse de votre ministère, ensuite, justement, elle évoque, je cite cette synthèse, la fragilité du public adolescent. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu sous-estimer justement cette fragilité parce que ce sont des jeunes gens qui sont effectivement très jeunes.
Non, vous savez d'ailleurs ce mot de fragilité est employé notamment sur la question de la santé parce que pour
il y a eu
tous
des
les
malaises.
Jeunes,
on se souvient qu'il
non,
y a
mais
eu,
pour
y a
tous
eu
les jeunes, il y a eu surtout un bilan de santé complet qui a été effectué et on a détecté des pathologies qui n'avaient jamais été détectées auparavant chez
Par
ces
exemple,
jeunes. Je ne vais pas rentrer dans des détails, mais il y a des pathologies assez graves. Parfois, c'était heureusement limité, mais il y avait des troubles auditifs ou des troubles visuels qui n'avaient pas été détectés auparavant, qui expliquaient pour certains jeunes qui aient des situations de décrochage scolaire. Voilà, ça, des choses qui ont pu être réglées. Il y a surtout une parole qui s'est libérée, notamment sur les questions de santé sexuelle, d'addiction, où des jeunes ont dit, voilà, j'ose aborder des questions que j'ose pas forcément aborder quand je suis chez moi, parce que je suis pas forcément à l'aise. Donc le dépaysement, ça a aussi été un moyen pour les jeunes d'aborder des questions qui touchent à leur santé. C'est pour ça qu'il y a la question de la fragilité qui a été évoquée, comme vous venez de le dire. Mais sinon, sur les emplois du temps. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des emplois du temps denses.
En même temps, trop lourd, trop chargé.
Quand vous discutiez avec les jeunes, ils vous disaient oui, c'est vrai qu'on est un peu fatigué, mais en même temps, on n'est pas venu là pour se reposer. Donc, il y a un juste équilibre à trouver. C'était une phase pilote. Elle visait à tester notre organisation, à tester un certain nombre de modules qui seront peut-être pas retenus sur la suite. Évidemment, l'emploi du temps, ça fait partie des choses qui vont être adaptées dans la montée en puissance du SNU.
Alors, justement, la montée en puissance dès l'an prochain, 30 000 nouveaux volontaires à nouveau. Est-ce que ça sera à nouveau sur la base du volontariat? Vous partiez sur 40 000, l'objectif est un petit peu réduit.
En fait, ça dépend de nos capacités d'hébergement des jeunes en juin prochain, puisque là, on est encore sur une seule période dans l'année en juin, ce qui ne sera pas le cas par la suite. Donc, on est en train d'évaluer ça. On sera sans doute autour de 30 000. Oui, encore une fois, des volontaires. La différence, c'est qu'en juin dernier, c'était dans 13 départements pilotes. Là, ça sera dans l'ensemble des départements français. Et dans chacun de ces départements, les jeunes qui sont en classe de seconde, ou équivalent s'ils ne sont plus scolarisés, pourront candidater pour faire leur service national en juin prochain.
Et avec cet objectif à terme de 800 000 personnes, il peut être atteint en combien d'années? Parce que pour l'instant, on n'a pas exactement l'année à laquelle le SNU sera obligatoire pour tous.
Écoutez, il y a un rapport qui avait été remis avant ma nomination au gouvernement il y a un an, qui prévoyait un calendrier de montée en puissance jusqu'en 2026, et une généralisation en 2026. Le président de la République a dit qu'il souhaitait qu'on aille plus vite. Et donc, on est en train de bâtir un scénario qui nous permettra d'aller plus vite. Je pourrais sans doute l'annoncer dans les prochaines semaines, d'ici à la fin de l'année. Je pourrais annoncer la date de la généralisation.
D'ici la fin du quinquennat ou juste après ?
On sera dans ces eaux-là. En tout cas, ça sera avant 2026. On est en train de regarder spécifiquement pour l'année.
Et Renaud Dely. Gabriel Attal, le débat politique a été marqué ces derniers jours par une polémique concernant le port du voile islamique, notamment concernant le cas des accompagnatrices scolaires, des mères accompagnatrices de sorties scolaires. Est-ce que des jeunes filles qui font le SNU peuvent porter le voile ?
Alors écoutez, sur la question de la laïcité dans le service national universel, on est aujourd'hui, on était en juin dernier, on sera l'an prochain, vous l'avez dit, sur la base du volontariat, ce qui veut dire que des jeunes qui candidatent pour faire le service national universel, qui s'engagent volontairement, s'engagent sur des règles qui ont été fixées, et notamment celle de la neutralité religieuse.
Donc pas de voile.
Ça veut dire que la loi de 2004 sur le port des signes ostentatoires religieux, qui interdit le port des signes ostentatoires religieux, s'applique
absolument
aux jeunes qui font le SNU.
Absolument. La question qui est posée, qui viendra ensuite, c'est dès lors que le service national deviendra obligatoire, quelles seront les règles. Et là, ça sera précisé par une loi. Il y aura un débat législatif, une loi qui l'appliquera. Évidemment, notre souhait, c'est que la loi de 2004 s'applique dans les mêmes conditions au service national
universel. Donc, il faudra une nouvelle loi sur le respect de la laïcité lorsque le service national universel deviendra obligatoire.
Il faudra une loi sur le service national universel d'une manière générale, puisqu'on va le rendre obligatoire et qu'il y a un certain nombre de sujets à régler dans la loi, et notamment celui de la laïcité, mais d'autres aussi. Et ça sera abordé à ce moment-là.
Et sur cette question du voile, pardon, mais vous êtes sur la même ligne que votre ministre, en l'occurrence Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, pour vous, le voile n'est pas souhaitable dans la société française.
Enfin, là-dessus, moi j'entends
c'est le mot qu'il a utilisé.
J'entends qu'il puisse y avoir un débat dans la presse la semaine dernière, etc. Mais moi j'ai le sentiment maintenant que quand on fait une matinale ou une émission, il y a toujours ce point voile où il faut maintenant aborder ce sujet-là. Ça me semble être un peu en décalage avec ce dont nous parlent les Français
vous
quand on va en déplacement.
Comment ? Vous l'avez dit à Jean-Michel Blanquer ?
Non, là je vous le dis à vous. Enfin, je veux dire aujourd'hui,
c'est lui qui a le sujet d'actualité.
Je vois pas aujourd'hui. Non, enfin, on lui posait une question, il a répondu. Je vois pas aujourd'hui quelle est la nouvelle actualité qui nous invite à parler de ce sujet-là. Encore une fois, quand je me déplace et que je discute avec les gens, c'est pas les sujets qui reviennent.
Parmi les retours que vous avez eus donc sur la première phase des volontaires du SNU, on ne vous a pas signalé de difficultés dans le cadre du respect de la laïcité.
Non,
il n'y a pas de problème de ce point de vue-là.
Pas de difficultés de ce point de vue-là.
Gabriel Attal, vous restez avec nous, invité de France Info. On va parler de la réforme du bac dans quelques instants. Tout d'abord, l'info à 8h50, c'est avec Mélanie Delaunay.
1 million d'euros pour indemniser les voyageurs et tous les billets de train remboursés, promesse de la SNCF après 3 jours de perturbations. Les TGV Ouigo transiliens circulent normalement ce matin. Ce n'est pas le cas pour les TER, 3 sur 4, et les Intercités, 2 trains sur 3. Le président de la région Grand Est, Jean Rottner, dénonce sur France Info une prise d'otage des usagers. Assemblée générale à 10h30 à l'usine Générale Électrique de Belfort. Les syndicats divisés avant le vote des salariés. La direction propose de limiter le plan social à 300 postes s'il renonce à des acquis sociaux. 4,5 millions d'euros en plus par an pour les sauveteurs en mer. C'est une info France Info. Mesure de compensation car la taxe sur les yachts censée renflouer les caisses de la SNSM n'a pas rapporté les 10 millions d'euros espérés. Et puis un agent d'Enedis grièvement brûlé en réparant une ligne électrique en Ardèche hier après le passage des orages. Il reste plus de 3000 foyers toujours privés d'électricité ce matin.
France Info. Et tout est plus clair.
Gabriel Attal, secrétaire d'État en charge de l'éducation nationale et de la jeunesse, est l'invité de France Info ce matin. La réforme du bac est en train d'entrer en application avec les premières épreuves qui sont prévues pour le mois de janvier. Et un syndicat, pas des moindres, le SNES-FSU, demande l'annulation pure et simple de cette épreuve et parle d'un niveau inédit d'impréparation. Est-ce que, d'après vous, le gouvernement, les services de l'éducation nationale sont prêts ?
Oui, bien sûr qu'on est prêt. On a adressé à l'ensemble des enseignants, aux familles, aux élèves, une note de 4 pages qui explique précisément les choses, la manière dont elles vont se dérouler. Il y a effectivement ces premiers examens blancs partiels en janvier prochain.
Ce ne sont pas des examens blancs, des janvier, ce sont des formes de partiels,
oui,
c'est le contrôle continu.
Oui, c'est ça, mais qui vont compter dans le contrôle continu pour 30%. C'est comme ça qu'on les a appelés de manière, comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une préparation, qu'il y a des garanties qui ont été données, et surtout, ça a été annoncé par Jean-Michel Blanquer à la rentrée, qu'il y a un comité de suivi de la réforme du bac qui a été mis en place. auxquelles participent les syndicats qui sont présentés au comité technique ministériel et qui visent à regarder la manière dont les choses se passent, éventuellement à adapter s'il y a des choses à adapter. Mais évidemment, on est prêt, l'ensemble des enjeux ont été préparés et ces partiels pourront se tenir.
Renaud Dely.
Gabriel Attal, vous êtes en charge de la jeunesse. Est-ce que faire passer à des élèves de première, hein, dès le mois de janvier ou février, de premiers partiels qui vont compter dans la note finale de leur bac l'année suivante, c'est pas une façon de faire stresser 18 mois avant des candidats au bac?
Non, moi je crois pas. Pour échanger aussi avec des jeunes qui passent le bac, pour l'avoir passé moi-même comme vous, je crois que on stresse énormément juste avant de passer son bac. Et aujourd'hui,
il vaut mieux commencer dès le début de la première.
Bah non, mais ce que je veux dire, c'est que
jusqu'à vous stresser en plusieurs fois.
Non, mais jusqu'à l'an dernier, on était dans une situation où les jeunes faisaient tapis, en gros, sur l'épreuve de leur bac, où ils jouaient leur va-tout sur ce moment-là, ce qui peut être facteur d'un énorme stress pour certains jeunes qui s'étaient préparés et qui pourtant, du coup, avaient des difficultés, voire échouaient devant le stress. Là, l'objectif, c'est de lutter contre le bachotage, de faire en sorte que les jeunes se préparent le plus en amont possible. C'est pour ça qu'il y a cette décision de contrôle continu qui compte dans 40% de la note. Évidemment, il reste des épreuves finales, mais ça permet d'assurer que les jeunes se préparent en amont et objectivement, il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure.
Pour en revenir à l'inquiétude, en l'occurrence, des enseignants, est-ce que vous ne craignez pas que certains lycées qui ont peut-être plus de moyens puissent s'y préparer mieux et que donc il y ait des formes de bac différents d'un lycée à un autre?
Non, objectivement, mais ça c'est une critique qu'on pourrait adresser au bac précédent, hein. Je veux dire, c'est une critique. Mais précisément, nous, toute notre politique, elle vise à lutter contre ça. Elle vise à faire en sorte que les lycées, d'une manière générale, les établissements scolaires qui sont dans les territoires les plus difficiles, aient davantage de moyens. On le fait dès le primaire avec le dédoublement des classes, on le fait avec l'aide aux devoirs de 4 heures par semaine gratuite pour tous les collégiens dans les collèges. On le fait au niveau du lycée avec les spécialités les plus attractives qui sont fléchées prioritairement dans les lycées qui sont traditionnellement présentés comme les moins attractifs. Voilà, ça c'est l'ensemble de notre politique.
En tout cas, il y aura donc des épreuves en janvier comme prévu.
Oui.
Gabriel Attal, la révision des lois bioéthiques qui comprend notamment l'extension de la PMA à toutes les femmes a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Le débat reviendra au mois de janvier au Sénat. Dans le cadre du débat à l'Assemblée nationale, un amendement qui avait été déposé par des élus de la majorité pour reconnaître automatiquement en France les enfants nés de GPA à l'étranger avait d'abord été adopté avant d'être rejeté parce que le gouvernement a demandé une deuxième délibération. Si jamais ce débat revient en seconde lecture, le gouvernement continuera de s'opposer à la reconnaissance automatique des enfants nés de GPA à l'étranger?
Oui, je crois que le gouvernement restera constant sur cette position, que ce qui a été dit par la garde des Sceaux, ce qui a été dit par la ministre de la Santé, c'est qu'on passe par l'adoption, la procédure de l'adoption, au cas par cas, pour la transcription de l'état civil. Et qu'il y a pas de... C'est une décision qui a été prise par le gouvernement, pas de reconnaissance automatique.
Ça sème le trouble au sein de la majorité. Certains députés souhaiteraient que cette reconnaissance automatique des enfants nés de GPA à l'étranger entre en vigueur.
Oui, je l'entends. Il y a eu un débat sur ce point-là, mais ce que je vous dis, c'est que l'arbitrage du gouvernement, la ligne du gouvernement n'est pas celle-là. Il y a d'ailleurs eu un nouveau vote et majoritairement, les députés ont choisi de s'en tenir à ce qui avait été annoncé par le gouvernement.
Et même si cette question de la GPA gagne du terrain dans l'opinion, un sondage France Info au Doxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro disait il y a encore une semaine qu'une majorité de Français étaient pour la gestation pour autrui, y compris pour les couples homosexuels. Ça ne fait pas bouger la position du gouvernement.
Non, parce qu'il y a un engagement très clair du président de la République dans le cadre de la campagne présidentielle. Le président a dit pendant la campagne, j'autoriserai la PMA pour tous les couples, pour les couples de femmes et pour les femmes seules, mais je n'autoriserai pas la GPA. C'est un engagement de campagne, et comme tous nos engagements de campagne, il est tenu.
Il y a un autre débat qui émerge au sein du groupe La République En Marche et du mouvement général, c'est la constitution d'un pôle de gauche au sein de La République En Marche. C'est une revendication de plusieurs dizaines d'élus de La République En Marche qui ont publié une tribune à ce sujet hier dans le journal du dimanche. Un pôle de gauche pour porter une voix sociale et républicaine au sein de la majorité. C'est bien la preuve qu'aujourd'hui, la majorité, elle penche trop à droite?
Non, alors d'abord, c'est pas tous les élus de La République En Marche qui ont publié cette tribune que vous évoquez. Il y a des élus, précisément, la plupart d'entre eux ne font pas partie de La République En Marche. Ils viennent de la gauche, notamment du Parti Socialiste, mais ils ont envie qu'on réussisse.
Vous venez du Parti Socialiste?
Oui.
Vous souhaiteriez que ce soit
La République En Marche. Voilà. Et je me retrouve parfaitement dans la ligne qui est portée par La République En Marche. Mais pour d'autres, peut-être, ils ont besoin de se retrouver dans une forme de club de réflexion, parfois pour avancer quelques idées. Et moi, j'ai
donc
pas d'objection.
Vous ne ferez pas partie de ce groupe de... Non. Ce pôle de gauche.
Moi, encore une fois, je me retrouve parfaitement dans la ligne qui est portée par La République En Marche, mais j'entends parfaitement que pour des élus comme ceux qui ont signé cette tribune, qui sont je crois près de 80, qui viennent du Parti Socialiste ou d'autres partis de gauche, qui ont envie qu'on réussisse, qui ont envie que le quinquennat réussisse, parce qu'ils ont envie que la France réussisse, s'ils ont besoin de se retrouver dans une forme de pôle de gauche, ou en tout cas un club qui les rassemble.
Ça veut dire que vous êtes plus de gauche, vous ?
Comment ?
Vous êtes
non,
plus
ça
de gauche,
veut pas
donc.
Dire ça, ça veut dire que certains élus qui viennent de la gauche peuvent ne pas avoir envie d'adhérer à La République En Marche en tant que tel. Il faut l'entendre, vous savez.
Ça veut aussi dire qu'ils ont l'impression que le parti penche trop à droite.
Mais non, ça veut dire
que demande un rééquilibrage,
nous,
tout de même.
On a constitué En Marche dans une logique de dépassement politique, avec une règle qui était assez nouvelle dans le paysage politique, qui était qu'on pouvait être membre de plusieurs partis en même temps, d'un autre parti, et adhérer à La République En Marche. Parce qu'on considère qu'il faut dépasser ces clivages-là. Et donc, si des personnes ont envie de soutenir la majorité sans pour autant adhérer à La République En Marche, bah écoutez, quand bien leur fasse. Il existe un pôle un peu semblable avec Agir à droite, que des élus constituent ce pôle à gauche.
Pour rééquilibrer la majorité, ça pourrait être nécessaire, justement. Vous rappeliez l'existence d'Agir à droite, il pourrait y avoir, pour équilibrer la majorité, un pôle de gauche, ça pourrait être utile.
Mais bon, moi, je me trouve assez équilibré, je me trouve assez équilibré.
Vous, oui, mais est-ce que la majorité est assez équilibrée? Vous êtes sûrement équilibré, mais la majorité.
Moi, vous savez, la politique sociale de ce gouvernement, je peux en tisser le fil depuis 2 ans maintenant. Ce que j'abordais tout à l'heure sur l'éducation, avec le dédoublement des classes, tout ce qui est fait pour la politique de la ville. Il y a plein de mesures qui ont été portées qui montrent que cette préoccupation sociale, elle est là. Maintenant, il y a des personnes qui ont une autre trajectoire, qui peuvent venir de la gauche, qui peuvent venir porter d'autres idées. Pour cela, ils peuvent avoir besoin d'un cercle qui les rassemble. Moi, je trouve ça très bien s'ils s'y retrouvent.
Gabriel Attal, secrétaire d'État à l'Éducation nationale et à la jeunesse, était ce matin l'invité de France Info. Il nous annonce donc que le SNU obligatoire, ça sera dans les années 2022-2023 a priori, mais on le saura dans quelques semaines précisément. Merci à vous.
Merci.
Merci.
Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info. Paris, la bataille, le feuilleton des municipales. Un nouvel épisode tous les vendredis. Un podcast à écouter sur franceinfo.fr, disponible aussi sur l'application Radio France.